Monsieur Quillardet, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier le Grand Orient de France de m'avoir invité pour cette rencontre. Et je crois que votre invitation et ma présence et notre présence, nous les représentants des différentes religions, est assez significative. Et pour moi, elle est significative de deux choses. D'abord, elle est significative que les choses ont un peu évolué depuis 1905. Et que nous ne sommes plus tout à fait en 1905, nous sommes en 2008. Je crois qu'une rencontre de cette sorte n'aurait pas été possible en 1905, certainement pas possible. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est que si vous avez cru bon inviter des représentants des différentes religions, c'est bien parce que vous pensez aussi que les religions peuvent apporter quelque chose au débat et elles sont, je dirais, un élément incontournable au débat de la laïcité. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le catholicisme, l'Église catholique aujourd'hui, en 2008, reconnaît pleinement la laïcité et est prête, elle s'inscrit, elle est d'accord pour inscrire sa présence dans le cadre institutionnel, juridique et même philosophique de la laïcité. Et je crois que dans le cadre juridique bien sûr, mais aussi dans le cadre philosophique, cet espace de liberté qui est donné où chacun peut s'exprimer, où chacun peut vivre librement selon sa conscience et selon sa croyance. Et l'Église catholique qui est en France aujourd'hui est très attentive à ce que ce droit, cette liberté puisse bien s'exercer partout. Alors, bien sûr, ça n'est pas venu tout d'un coup, il y a eu un certain nombre d'étapes. Je crois que l'histoire, depuis 1905, elle a un peu évolué et la loi de séparation de l'Église et de l'État, même si son esprit demeure et même si, bien sûr, l'Église catholique aujourd'hui y est très attachée, elle a subi quelques petites modifications. Mais c'est surtout de représenter une histoire qui a eu beaucoup de difficultés avec la laïcité, de représenter une tradition qui a eu beaucoup de difficultés avec la laïcité. Je dirais cette histoire, elle est certainement un peu douloureuse et comme dans sa propre histoire, quand on a des blessures, eh bien on sait qu'à certains moments, c'est même si on a l'impression que les plaies se sont cicatrisées, les blessures réapparaissent. Et je pense que ce qui s'est passé après le discours du Latran est un peu de cet ordre. Mais je vois que M. Quillardet a pris le discours du Latran avec beaucoup d'humour. Et quelque part, je m'en réjouis parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire. Voilà.
J'en reparlerai tout à l'heure.
D'accord. Alors, bien sûr, l'Église catholique soutient la possibilité d'intervention des religions dans l'espace public, mais d'intervention comme source, comme instance plutôt de proposition et d'interpellation de la société. Source de proposition parce que l'Église catholique porte une expérience passée et actuelle, et j'aurais envie de dire à ce sujet, attention aux lectures un peu trop sélectives et manichéennes de l'histoire. Je ne crois pas qu'on puisse résumer l'histoire en un combat entre d'un côté l'obscurantisme religieux et de l'autre côté, je dirais, les Lumières. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça et même si j'ai bien conscience que nous ne serons peut-être pas tout à fait d'accord, je revendique quand même, nous revendiquons d'être une part de l'héritage de l'histoire de la France. La France n'a pas commencé avec les Lumières et je crois que le christianisme fait partie des sources qui font qui ont fait notre histoire et qui certainement continuent, peut-être dans une moindre mesure, mais de la faire. Voilà, donc je dirais, et j'ai bien conscience aussi de toutes les zones d'ombre de cette histoire, et je crois qu'il faut que nous fassions la vérité, nous chrétiens, nous catholiques, là-dessus. On a commencé à le faire, à faire ce que j'appellerais un examen de conscience, mais en même temps, on ne doit pas nier tout ce qu'a apporté le christianisme à l'histoire. Et preuve en est, vous savez, il y aurait beaucoup d'exemples, mais en 1904, quand on a soumis les congrégations religieuses, quand on a soumis les congrégations religieuses à une autorisation du ministère des cultes, on a supprimé les congrégations qui travaillaient dans l'éducation pour les raisons que l'on sait, parce qu'il y avait un enjeu là pour la laïcité, mais on s'est bien gardé de supprimer un certain nombre de congrégations qui travaillaient dans le champ caritatif, dans le champ de la santé et surtout les congrégations missionnaires. Voilà. Donc c'est un peu fort de son expérience, de son histoire aussi, mais aussi fort de, je dirais, son expérience actuelle, que l'Église revendique cette place d'être une instance de proposition, hein, pas de domination ou d'imposition, mais une instance de proposition dans la société. Je citerai peut-être quand même un exemple qui me paraît assez intéressant. Il se trouve qu'avant d'être dans le centre-ville, j'étais prêtre à Coquerioville, et donc dans ce qu'on appelle une banlieue, ce qu'on appelle aujourd'hui une banlieue, avec donc des chrétiens de toutes origines, et de toutes origines, des chrétiens d'origine étrangère, africaine, asiatique et d'autres lieux d'outre-mer. Et la communauté chrétienne, l'assemblée chrétienne a certainement été et certainement un facteur d'intégration important et un lieu d'échange, de rencontre entre des hommes d'origine différente. Voilà. Et puis, je crois quand même qu'il ne faudrait peut-être pas sous-estimer ça, hein, l'étymologie du mot religion, même si tout le monde n'est pas d'accord, c'est mettre en lien, relier. Et je crois que les religions, enfin en tout cas l'Église catholique, a quelque chose à dire à ce niveau-là, a une expérience à apporter et à proposer. Elle a une expérience à apporter et à proposer. Donc l'Église comme instance de proposition, mais aussi comme instance d'interpellation des pouvoirs publics. Je dirais que c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'Église. Monsieur Quillardet a cité l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que l'Église catholique, dans le régime de Vichy, n'a pas été, quelques évêques exceptés bien sûr, a été plutôt très docile, pour ne pas dire autre chose, par rapport à Vichy. Et aujourd'hui se développent dans l'Église des appels à, je dirais, ne pas accepter toutes les lois. Je pense par exemple à toute la question de l'accueil des sans-papiers. Je relisais encore dernièrement le cardinal Barbarin, figure éminente de l'Église catholique en France, s'adressait à des élus et disait, eh bien dans ce domaine-là, le primat, il rappelait le primat de la conscience. Et si sa conscience invite à cacher des demandeurs d'asile sans papier qui risquent d'être reconduits à la frontière, eh bien il invitait à obéir à sa conscience plutôt à la loi. Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Bon, dernière chose que je voudrais dire, et je crois que notre rencontre de ce soir est certainement un prémisse. je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas travailler ensemble. On est confrontés tous, je dirais comme société, à un certain nombre de défis, et tous à des degrés différents. Je dirais défis liés à la mondialisation, défis liés à la question de la transmission d'un certain nombre de valeurs, voilà, tout un tas de défis du vivre ensemble. Et je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie de travailler ensemble, quelle que soit, je dirais, notre histoire, notre source, nos sources d'inspiration, les lieux où on nourrit les valeurs qui sont les nôtres. Voilà. Je terminerai en posant cette question. Tout à l'heure, vous avez dit que les francs-maçons refusaient les savoirs imposés. Je me permets de demander, aujourd'hui, en 2008, quels sont ces savoirs imposés? Je ne pense pas qu'ils viennent de l'Église catholique. En France, certainement pas. Voilà, merci.